Place à l'enquête désormais à Nantes, ou plutôt aux enquêtes administratives et judiciaires. Après la mort de Steve Canizzo, tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique. Des enquêtes qui doivent permettre de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre autour de cette histoire, et il y en a. Air France étend son offre low cost, la direction et ses pilotes trouvent un accord pour développer la filiale Transavia. Et puis en fin de journal, on sort les brassards pour des cours de natation. Opération J'apprends à nager à Metz, à destination des jeunes enfants, histoire d'éviter des mésaventures une fois sur la plage.
France Inter.
Sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient aujourd'hui pour rendre hommage à Steve Canizzo. Un rassemblement est prévu samedi à Nantes du côté de l'enquête. On n'est pas plus avancé avec ce rapport de l'IGPN sur ce qui s'est réellement passé ce 21 juin. Pas de lien direct entre l'intervention des forces de l'ordre et la mort de Steve, tombé dans la Loire à Nantes le soir de la fête de la musique. Mais les conclusions de l'IGPN ont le mérite de soulever pas mal de zones d'ombre, Jean-Philippe Deniaud.
Oui, la principale d'entre elles. À quelle heure le jeune homme est-il tombé dans la Loire? Ce qui ressort de cette enquête et des différents témoignages recueillis dans la presse depuis 5 semaines, c'est que personne ne peut affirmer avoir vu le jeune homme au moment où la police a lancé son intervention offensive avec des tirs de balles de défense et de grenades lacrymogènes. Mais Steve est-il tombé à ce moment-là ou plutôt dans la soirée? On sait qu'il a contacté un ami par texto à 3h, puis son téléphone arrête de borner à 3h16, 1h10 avant la charge policière. Est-ce parce que son portable est tombé dans l'eau ou parce qu'il n'avait plus de batterie? Un seul témoignage pourrait attester que Steve était encore sur le quai au moment de l'intervention des policiers. C'est celui de son ami qui signalera sa disparition à 5h50 en appelant police secours. On s'est fait gazer vers 4h30, indique-t-il spontanément. Et puis l'autre élément déterminant serait de parvenir à situer l'endroit où Steve est tombé à l'eau. Son corps a certes été récupéré à 650 mètres en amont du bout du quai Wilson, mais il n'est pas impossible qu'un corps puisse ainsi remonter le courant de la Loire, au gré notamment du mouvement des marées.
Jean-Philippe Deniaud, chef du service police-justice de France Inter. Les mots ont un sens. Christophe Castaner en est parfaitement conscient depuis l'épisode de la Pitié-Salpêtrière où il accuse dans un premier temps les manifestants d'avoir attaqué délibérément l'hôpital avant de changer de vocabulaire par la suite. Peut-être devra-t-il en faire autant dans les prochains jours. En tout cas, le ministre de l'Intérieur assume le saccage de la permanence d'un député de La République En Marche à Perpignan est selon lui un attentat. Il le répète à plusieurs reprises en marge d'un déplacement dans les Pyrénées orientales, un attentat préparé en témoigne, dit-il, l'achat de bidons d'essence en amont. Transavia, enfin prête à décoller. La direction d'Air France KLM et les pilotes trouvent un accord pour l'extension de la filiale low cost du groupe. Le nombre d'avions ne sera plus limité à 40, comme c'est le cas aujourd'hui. Le SNPNL, le syndicat des pilotes réticent ces 5 dernières années, donne enfin son feu vert, car il y a aujourd'hui des garanties, assure son vice-président Guillaume Schmitt.
En 2014, le contexte était totalement différent, puisqu'à l'époque, M. de Juniac voulait développer des bases en Europe de Transavia avec de l'emploi à l'étranger. C'était du dumping social, clairement. Il avait écarté les pilotes de l'aventure et je pense qu'il n'avait pas très bien compris comment s'y prendre pour développer une low cost dans un groupe. On est tout à fait capable de soutenir et on est même en volonté de soutenir le développement de cette low cost. Et aujourd'hui, on l'a démontré. Je pense qu'on a une nouvelle direction qui résonne de façon totalement différente, qui discute avec ses pilotes. Donc on a eu des garanties que Transavia ne viennent pas cannibaliser l'activité d'Air France et à partir de ce moment-là, rassurés sur ce point, nous avons donné notre feu vert. Donc là, on est vraiment sur un moment important qui va permettre à Transavia de se développer de n'importe quelle ville de France. Donc aujourd'hui, on lâche vraiment la bride sur le développement de Transavia. Parce qu'on a compris, et je pense que tout le monde a bien compris, que dans le groupe, Transavia est une compagnie qui marchait bien, qui est toujours appréciée, qui fait beaucoup de marge, et c'est un vecteur de croissance important dans notre groupe aujourd'hui.
Guillaume Schmitt, vice-président du SNPNL chez Air France KLM, joint par Maxime Debs pour France Inter. Les pompiers du Gard toujours sur place ce soir à Générac, même si le feu est fixé, ils sont environ 350 à effectuer des opérations de noyage des sols, méthode qui consiste à mettre de l'eau sur des braises encore chaudes, car avec les vents, elles sont susceptible de provoquer de nouvelles flammes. La Russie également en proie à de violents incendies depuis quelques jours, de gigantesques feux de forêt qui ravagent des millions d'hectares en Sibérie. Aujourd'hui, Vladimir Poutine ordonne à l'armée d'intervenir pour combattre les flammes, une réaction très très tardive, car contrairement aux autorités françaises, la Russie préfère laisser passer l'orage avant d'agir. Le Kremlin considère que lutter contre le feu coûte plus cher que de réparer les dégâts. Sur place, reportage de Jean-Didier Revoin.
Sur ordre de Vladimir Poutine, l'armée interviendra auprès des pompiers pour lutter contre les incendies qui ravagent la Sibérie depuis plusieurs semaines. Il aura fallu que pullulent sur les réseaux sociaux des selfies de simples citoyens ou d'artistes reconnus portant un masque médical orné de l'inscription « La Sibérie brûle » pour que le pouvoir central réagisse enfin devant la passivité des autorités locales. Dans des villes comme Omsk ou Krasnoïarsk, l'épaisse fumée dégagée par les incendies rend par moments l'air irrespirable. Hier, le Premier ministre Dmitri Medvedev avait déjà rappelé à l'ordre les autorités locale.
Chaque dirigeant d'un sujet de la fédération, chaque gouverneur doit gérer cette situation sous son contrôle personnel. Pas simplement faire des déclarations générales ou pointer le ciel du doigt, mais gérer cette situation personnellement.
Si les autorités locales sont obligées de protéger des flammes, les lieux habités et les infrastructures, elles peuvent en revanche, depuis 2015, laisser les incendies se développer si elles estiment que le coût de la lutte contre le feu est plus élevé que celui des potentielles destructions. Une passivité qui s'explique, selon le directeur de la lutte contre les incendies de Greenpeace Russie, par l'état définitif des régions concernées.
C'est une question de pauvreté. Les régions n'ont pas les moyens d'éteindre les incendies dans leurs régions isolées.
En cette année de sécheresse et de température anormalement élevée, les conséquences sont alarmantes. L'équivalent de la Belgique est déjà parti en fumée. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Au Brésil, certains médias s'en amusent, d'autres en soupirent. En tout cas, ce lapin posé par le président Jair Bolsonaro au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, fait beaucoup, beaucoup parler. Les deux hommes auraient dû se rencontrer lundi pour parler de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Une rencontre finalement annulée à la dernière minute par le président brésilien, officiellement pour des questions d'agenda. Un agenda si chargé qu'il trouve le temps de se faire couper les cheveux à l'heure du rendez-vous. Il se filme même sur les réseaux sociaux pendant une douzaine de minutes en train de peaufiner sa raie sur le côté. On y reviendra dans le journal de 19h tout à l'heure. La très mauvaise surprise ce matin pour un apiculteur bio de la Haute-Vienne. 12 de ses ruches ne sont plus là, volées dans la nuit, ce qui représente près de 600 kilos de miel et 12 000 euros de préjudice. Se baigner, c'est bien. En sachant nager, c'est mieux. Ça évite les noyades accidentelles. 1649 recensées l'an dernier selon Santé publique France et cette année en le même chemin. Alors en période estivale, à l'heure où vos enfants veulent faire comme les copains, plonger tête baissée dans la mer ou la piscine, pourquoi ne pas les inscrire à des cours gratuits pour connaître les fondamentaux de la brasse? Tout cet été, l'opération J'apprends à nager initie les plus jeunes à la nage. Exemple à Metz, Cédric Langrotte.
Ils sont 12, bonnet de bain sur le crâne et lunettes sur les yeux, 12 enfants très excités pour certains, un peu anxieux pour d'autres à l'idée de plonger dans le grand bain.
Après vous en faites deux sur le dos et deux sur le ventre.
Okay. Les consignes données, la séance commence, l'éducateur c'est Arnaud.
On commence avec un test, on regarde le niveau des enfants qui sont là, puis après on adapte vraiment le contenu à chaque séance, à chacun en fait, voilà, en fonction des besoins de chaque enfant.
Ça fait déjà une semaine que ce groupe vient tous les jours pendant une heure pour apprendre à nager. À l'issue, un petit diplôme, le sauve-nageur, synonyme de fondamentaux acquis, car la natation, ça n'est pas comme les autres sports. Hugues Biltauer préside le comité de natation de Moselle.
C'est sûr que la natation, voilà, si on ne sait pas nager, on risque de se noyer. Alors que la course à pied, si on est fatigué, on s'arrête, il n'y a aucune mise en danger.
Et pour le club de Metz, c'est aussi tout bénef. Sébastien Marouzet, son directeur technique.
Nous, l'idée, c'est aussi de trouver le moyen pour l'année prochaine de proposer des stages aux enfants qui ont déjà participé une fois et de pouvoir perdurer ça avec les enfants qu'on a besoin et qu'on a encore envie et aider ces enfants-là à peut-être intégrer un sport qu'ils viennent de découvrir et qui leur plaît. Ouais.
Autre défi, élargir la tranche d'âge qui peut participer. La ministre des Sports a en effet décidé d'inclure les 4-6 ans à ce dispositif.
Cédric Langrotte de France Bleu Lorraine Nord et la baignade déconseillée par contre demain dans le sud-ouest, la météo n'est pas propice.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Une dégradation orageuse sur le sud-ouest demain, Sébastien Léas.
Oui, avant la fin de nuit, le sud de l'Aquitaine va voir arriver des averses orageuses. Progressivement, ces pluies et ces orages se décaleront vers Midi-Pyrénées, puis le sud du Massif central après la mi-journée. Et les pluies seront plus marquées demain matin en touchant le sud de la Garonne, notamment sur le contrefort des Pyrénées. L'Aquitaine retrouvera un après-midi plus clément, mais une nouvelle ligne d'averses orageuses va arriver en fin de journée par l'Atlantique. Sur le reste du pays, la journée s'annonce plus calme avec un soleil généreux, surtout en matinée. Le ciel sera plus variable sur le nord-ouest. ouest avec des nuages plus nombreux. Mais progressivement, les éclaircies vont quand même s'affirmer. Et sur les plages, le ciel deviendra même dégagé l'après-midi.
Côté température, elles sont en légère hausse.
Oui, hausse essentiellement sur la moitié nord, puisque le sud-ouest va même perdre quelques degrés à cause des passages d'averses. Demain après-midi, les maximales atteindront 23 degrés à Vannes, Cherbourg et Abbeville. 25 degrés pour Aurillac, La Rochelle et Biarritz. 26 degrés à Toulouse et à Cholet. On ira jusqu'à 28 degrés à Paris et à Mulhouse. 29 degrés pour Grenoble et Toulon. 31 à Calvi et Montpellier. Et le maximum pour Carpentras avec 34 degrés.
Sébastien Léas de Météo France.